Interlope, une émission transpédéguine et féministe par et pour les intrus.
Un vendredi sur deux de 18h à 19h sur Radio Canu 102.2.
Salut!
Bonjour!
Bonjour!
On est de retour après tant d'absence!
Un été interminable!
Ouais, mais on vous a préparé plein de choses, mais qu'on ne peut pas encore vous proposer ce soir, ou en tout cas pas maintenant, mais vous en saurez plus pourquoi on a mis tant de temps. Peut-être un nouveau jingle, peut-être un nouveau membre, peut-être, on ne sait pas.
En tout cas, on est trop contente d'être de retour. Et bienvenue sur Interlope! Du coup, on vous a préparé une petite émission kaléidoscope. Pour rappel, les kaléidoscopes d'Interlope, c'est des formats où on aborde plusieurs sujets différents. Et aujourd'hui, on va parler de prison avec une rubrique connard, puis une petite chronique bande dessinée. Ensuite, on va écouter une interview de Jean Stern qui parle du pinkwashing en Israël. Après, un petit passage sur une radio par et pour les femmes en Afghanistan. Et on terminera sur un potin lesbien et un point agenda. Bonne écoute!
Non, trop tard. On commence par la rubrique connard. On verra si on aime bien ou pas avoir une rubrique connard, mais on commence par ça, comme ça après on tire la chasse et c'est fini. Alors il y a quelques semaines, il y a Soral qui a pris 60 jours de prison ferme par un tribunal suisse pour avoir insulté une journaliste de grosse lesbienne, je cite. Malheureusement, il peut encore faire appel. Et moi, je trouvais que c'était quand même incroyable que les Suisses disent 2 mois de tôle pour une insulte. Je trouve ça, ouais. Alors, je sais pas s'ils font réellement appliquer les peines de prison comme ça. Et ce qui m'étonnait aussi dans cette histoire, c'est qu'il a dit grosse lesbienne et qu'il a pas dit grosse Gwyn. Je sais pas pourquoi non plus. Bon, voilà, on verra. Ça se trouve, il va vraiment prendre 60 jours de prison et il va les faire. Et il y a une autre personne qui mérite un peu la tôle, c'est J.K. Rowling, qui vient de faire une nouvelle sortie, en disant qu'elle préférait faire 2 ans de tôle que de bien genrer une personne trans. Alors pour vous faire l'histoire, elle a répondu à un tweet, elle a répondu sur Twitter le mot non à une image qui disait, je cite, « Répétez après moi, les femmes transgenres sont des femmes ». Et c'est là-dessous qu'elle a dit non. Et suite à ça, il y a eu un commentaire, un gars qui lui a répondu « Votez travailliste ». Qui est le parti politique britannique historiquement de gauche, il a dit « Votez travailliste, prenez 2 ans de prison ». Et ça, c'est parce que le parti travailliste a annoncé que s'ils arrivent à la tête du gouvernement britannique, ils changeraient la loi et que les délits aggravés liés au sexe et au genre seraient passibles de 2 ans de prison. Et que si une personne s'adresse de manière offensante à une personne, à une autre, en se trompant de genre, la faute peut être classée d'infraction aggravée dans leur future législation. Voilà pourquoi il a dit ça. Et c'est là-dessus que J.K. elle a dit « Je serais, donc je cite, « Je serais heureuse de faire 2 ans de prison si l'alternative est la parole et le déni forcé pour faire comprendre l'importance des sexes. Vous pouvez ramener cela au procès, ça sera plus amusant que tout ce que j'ai vécu sur le tapis rouge. » Alors déjà, moi je suis à peu près sûre qu'elle genre bien des meufs trans sans même s'en rendre compte, parce qu'elle ne sait pas qu'elles sont trans. Et en plus, franchement, moi, je me suis dit, mais si elle est chaude, mais en vrai, foutez-la en tôle. Et quand on aura gagné et que les prisons, elles n'existeront plus, eh ben, faudra les rouvrir juste pour Soral et J.K. Rowling. Voilà, donc c'était la rubrique connard et pro-prison. Mais je vous rappelle quand même que La Petite Cuillère, c'est l'émission anticarcérale de Radio Canu, les premiers et troisièmes jeudis de chaque mois de 19h à 20h. Et que c'est une émission super et que nique les tôles.
Yes.
C'est bon, c'est passé.
Oui. Allez, on
tire la chasse.
Allez, je continue avec ma rubrique sur une BD que je viens de lire. On y va. Je suis furieuse contre une société qui m'a éduquée sans jamais m'apprendre à blesser un homme s'il m'écarte les cuisses de force, alors que cette même société m'a inculqué l'idée que c'était un crime dont je ne devais jamais me remettre. C'est sur cette citation de Virginie Despentes que se ferme la nouvelle BD de Frix, sortie le 6 octobre, intitulée « Sous la ceinture ». Après sa BD Autopsie des échos dans ma tête, sortie en 2021, inspirée de son expérience de personne folle et psychiatrisée à l'adolescence, Frix raconte l'histoire cathartique de Diane Berkovic, une jeune boxeuse prodige, dans une aquarelle que Frix qualifie de cracra, sous un voile bleuté qui vient recouvrir jusqu'aux gants de boxe écarlate. Les premières pages de la BD nous plongent dans l'intensité et la pesanteur d'un premier match aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. Diane accomplit ses plus grands rêves, domine sa discipline et s'entraîne durement pour gagner une médaille. Elle file le parfait parcours, mais un événement vient tout briser. C'est le lot de nombreuses personnes dans le sport de haut niveau, surtout des meufs. Ce milieu est un broyeur d'espoir, un broyeur d'esprit et un broyeur de corps, et souvent les violences oppressives y trouvent un amplificateur qui reflète la pression et l'intensité des attentes qu'on impose sur les individus. D'autant plus sur les meufs Gwyn trans, les personnes LGBT en général, les enfants, les personnes minorisées, quoi. Ce genre d'histoire, on le connaît, et d'habitude, c'est plutôt représenté comme une fatalité douloureuse, un statut de victime éternelle, traumatisée à vie, etc. Mais dans Sous la ceinture, au contraire, on nous donne à voir une histoire de vengeance et de justice qui fait du bien, qui redéfinit les lignes infranchissables entre bourreau et être fragile. C'est aussi à travers cette quête de justice individuelle et collective d'une décennie que se raconte une belle histoire d'amitié, une histoire d'amour, mais aussi la levée des normes de genre et sexistes. Bon, je veux pas trop vous spoiler, c'était difficile d'écrire ça sans spoiler, mais en gros, c'est une histoire lesbienne et une histoire trans qui se vit dans le corps aussi violemment sur le ring qu'avec douceur dans l'intimité des personnages. Sous la ceinture, la dernière BD de Frix est sortie le 6 octobre. On vous mettra sur notre blog le lien vers le profil de Frix. Et vous pouvez même suivre les profils de Diane et son meilleur pote Elliot. Et je peux dire que la BD, elle est adaptée à un jeune public et je l'ai lue d'une traite.
Yes, merci ce conseil. Et maintenant, on va écouter un montage d'une interview de Jean Stern, qui est le cofondateur du Guépier en 1979 et qui est l'auteur du livre Mirage Gay à Tel Aviv, qui parle du pinkwashing en Israël. C'est une interview qui a été faite en mars 2018, du coup ça remonte un peu. Elle a été faite par le CRAP, qui était, mais qui n'existe plus, le collectif de réflexion, d'analyse et d'action révolutionnaire, postcolonial, j'ai oublié le P. Non, pas d'action révolutionnaire.
Action et réflexion.
Action et réflexion, ouais, non, moi je suis partie en vrille. Ok, le collectif de réflexion, d'analyse et d'action de réflexion postcoloniale. Et de l'émission On n'est pas des cadeaux, du coup l'ancienne émission Transpédéguine de Radio Canu, dont on a récupéré le créneau. Et on en a fait un montage. C'est parti.
Tu pourrais nous dire un peu comment t'es venue cette idée de l'enquête? Comment tu t'es retrouvé dans cette affaire du pinkwashing?
Ben, assez simplement et assez rapidement, évidemment. Pour au moins trois raisons, c'est que j'ai regardé un petit peu les changements d'attitude, alors à la fois en Israël et puis à Paris où j'habite, chez les gays. Alors à Paris d'abord, j'ai vu pas mal de gens qui allaient en Israël passer des week-ends, des trois jours, des quatre jours, des petites semaines, et qui revenaient absolument enchantés avec des discours absolument merveilleux, c'est formidable, qu'est-ce qu'on s'amuse à Tel Aviv, c'est une ville extraordinaire, etc. Et évidemment, ça m'énervait un peu parce que connaissant bien Israël et la Palestine, y étant allé à nombreuses reprises dans ma vie, je savais que ça correspondait au fond à aucune réalité, si ce n'est que à un instant T, effectivement, quand tu sors dans une boîte à 2h du matin, que tu sois à Tel Aviv, à Beyrouth ou à New York, si t'es défoncé, tu t'amuses, quoi, évidemment, hein, ça, y a pas de photo là-dessus. Donc, cette réalité, cette espèce de manière dont les choses se passaient, ça m'a énormément troublé. Et donc, je me suis dit, il faut que j'aille voir sur place, il faut que j'aille comprendre ce qui se passe un peu sur place. Et effectivement, à partir de 2009, j'ai commencé à retourner plus régulièrement à Tel Aviv. J'ai d'ailleurs débarqué à Tel Aviv dans des circonstances assez intéressantes, après ne pas y être allé pendant 15 ans, donc en 2009. Je suis arrivé le 31 juillet, et le soir même, il y avait des balles, des coups de feu, qui ont été tirés par un homme contre le Sun centre des jeunes gays de Bar-Noar, au cœur de Tel Aviv. Il y a eu 2 morts ce soir-là, et j'ai découvert au milieu de la nuit à Tel Aviv, une nuit d'été, il faisait très chaud évidemment, des milliers de personnes qui affluaient en colère contre ce crime dont on ne savait rien à l'époque, et dont d'ailleurs aujourd'hui, 9 ans après, on ne sait toujours pas grand-chose sur les motivations de l'auteur, une vengeance personnelle très probablement, il y a peut-être un trafic de drogue, mais ça on n'en sait rien. Et le lendemain, après ce moment d'émotion et de colère au milieu de la nuit, à 17h, il y a eu un rassemblement devant le centre des jeunes gays où les coups de feu avaient été tirés, avec le maire de Tel Aviv, la ministre de la Culture, le ministre de l'Éducation, et surtout le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, qui est le premier ministre de droite, qui est toujours premier ministre de droite aujourd'hui, allié à l'extrême droite, et qui a fait un discours très gay-friendly, exprimant sa compassion à l'égard des gays meurtris. Et ce discours m'a paru particulièrement hypocrite, parce que je connaissais et avais un petit peu fréquenté, disons, l'homophobie de la société israélienne. Et donc, c'est de cela, de ce moment-là, qu'est venue l'idée pour moi de creuser le sujet et de comprendre pourquoi un premier ministre de droite et d'extrême droite en Israël s'affichait aussi gay-friendly et à quel ressort politique ça obéissait.
Est-ce que ça serait possible, en fait, Jean, que tu puisses un peu nous expliquer comment s'est mise en place l'idéologie du pinkwashing et ses répercussions dans ce contexte géopolitique colonial, par exemple ?
Bah, c'est très très simple, hein. Le contexte du pinkwashing s'est mis en place, le pinkwashing s'est mis en place pour donner des armes à Israël, pour chasser l'image qui vient d'être décrite en partie précédemment, l'image négative que produit dans les opinions publiques mondiales l'occupation de la Palestine, et le fait que l'occupation de la Palestine perdure sous des formes diverses mais aggravées, on va dire, depuis maintenant 1967. Indépendamment de ce qui a été rappelé plus tôt, de la création même de l'État d'Israël et de l'aspect biaisé du partage qui s'est fait alors sous couvert des Nations Unies, et c'est très important, avec le soutien non seulement des États-Unis et de la Russie, c'est-à-dire de Staline et de Roosevelt, mais aussi de toutes les puissances européennes qui elles-mêmes avaient été des puissances coloniales sur place. Je pense évidemment en particulier à la France et à la Grande-Bretagne. Donc le contexte politique qui se met en place à l'époque, en 48, évidemment va faire que petit à petit, au fil des décennies, au fil de l'accentuation de l'occupation et l'après 67, où 67 avait été, par parenthèse, une espèce de dramaturgie extraordinaire, puisque les Juifs retrouvaient Jérusalem-Est, Israël prenait la mainmise sur l'ensemble de la vieille ville de Jérusalem, avec les répercussions symboliques qu'il y avait, avec évidemment la réappropriation du mur des Lamentations et la perte pour les Arabes, et les musulmans en particulier, chez les Arabes, du contrôle du dôme, qui est aujourd'hui sous un contrôle religieux jordanien, mais de fait sous le contrôle de l'armée israélienne du point de vue territorial. Et donc, ce contexte-là fait que, depuis 67, l'image d'Israël, dans l'opinion, au fur et à mesure des guerres, au fur et à mesure de l'occupation, n'a cessé de se dégrader dans le monde occidental, et notamment dans la jeunesse, et beaucoup plus gravement et sérieusement qu'on le croit parfois en France, où ce débat-là est relativement tabou, on va dire. Il est mal vu de dire du mal d'Israël, pour dire les choses assez simplement, et on vient encore, Pascal Boniface vient encore de faire un livre, qui est son deuxième sur la même question, sur la défense, au fond, du droit de critiquer Israël, qu'on soit juif ou pas juif, d'ailleurs, c'est pas le débat. La critique de la politique d'un État, la critique de la politique d'un pays, n'a rien à voir, évidemment, avec la religion de ses dirigeants, quel qu'il soit d'ailleurs. Et donc, ben, l'image d'Israël était mauvaise, l'occupation aggravait cette image d'Israël, et les dirigeants israéliens se sont posé un certain nombre de questions pour changer cette image. Et donc, ils ont cherché les points forts, entre guillemets, de leur pays. Ça, c'était au milieu des années 2000, en 2007-2008, il y a une dizaine d'années à peu près. Pour faire ce travail, ils ont contacté, élaboré une stratégie avec des agences de publicité mondiales, dont certaines sont d'ailleurs spécialisées dans le marketing à destination des LGBTI. En particulier, un cabinet qui est Capignon-sur-Rue, Amsterdam, qui s'appelle Out Now, et qui a travaillé pour des villes comme Berlin, comme Vienne, comme Tel Aviv en l'espèce, ou pour des sociétés comme IBM, comme Orange, comme Coca-Cola, comme Toyota, enfin bref, des grandes marques, ou des pays, ou des institutions font appel à ces cabinets, à ces agences de marketing pour changer leur image. Et ces agences ont identifié deux points forts chez Israël. L'high-tech d'abord, mais l'high-tech est directement connecté, si vous voulez, à l'activité militaire du pays, à la défense, puisque l'high-tech vient essentiellement de la surveillance de masse numérique, des systèmes télécommandés, des missiles hyper puissants et hyper précis dont dispose l'armée israélienne, qu'ils exportent d'ailleurs dans le monde entier, cette technologie-là, et qui est, cette technologie militaire est le moteur de l'high-tech israélienne, ce qui permet à l'high-tech israélienne de se développer considérablement. Et donc, l'high-tech, c'est quelque chose qui rapporte de l'argent au pays, qui est bon pour son industrie de défense, mais qui n'est pas très vendable comme argument touristique. Vous n'allez pas visiter un pays parce que il y a des missiles connectés ou des systèmes de surveillance de masse. Restaient les atouts balnéaires de Tel Aviv. Tel Aviv, c'est une ville qui, sociologiquement, a totalement changé ces 20 dernières années, en raison d'ailleurs de la politique du gouvernement israélien et de l'ensemble des processus de privatisation, y compris du logement social, qu'il y a eu dans ce pays, indépendamment de l'affaire palestinienne, indépendamment de l'occupation. Il faut savoir que Israël est un des pays où les inégalités sociales, qui sont très importantes de par le monde, par les temps qui courent, sont les deuxièmes au monde, juste après le Mexique. Donc Israël est non seulement un pays qui occupe militairement la Palestine, mais un pays qui maltraite ses pauvres, ses ouvriers, ses chômeurs, ses travailleurs immigrés, ses migrants, qu'on est en train de foutre dehors par dizaines de milliers en ce moment. On parle beaucoup des camps de rétention en France, mais le plus grand camp de rétention en Israël a 7500 places. Donc vous imaginez l'ampleur que ça prend, surtout quand ça se trouve dans le Negev, avec 40 degrés à l'ombre pour les bons jours. Donc voilà. Donc toute cette situation, cette occupation, cette injustice sociale, ce racisme aussi qui marque très profondément et très gravement et très salement, je dirais, la société israélienne aujourd'hui, il fallait le faire oublier, il fallait l'évacuer et tout. Et on s'est dit, Tel Aviv, c'est pas mal, il y a des plages, il y a des bars, il y a des boîtes, il y a des jeunes, il y a des jeunes friqués urbains, comme il y a partout dans toutes les grandes villes occidentales aujourd'hui, à Londres, à San Francisco, ils viennent des start-up, d'ailleurs, on va dire, c'est la Startup Nation, la nation des start-up, on va dire la ville qui ne dort jamais, parce que un journaliste occidental invité évidemment par la mairie de Tel Aviv va constater en 2009 ou en 2010 quand il publie son papier qu'il y a plus de bars que de synagogues à Tel Aviv. Donc vous voyez, on va construire comme ça toute une stratégie qui fait que petit à petit, on va faire passer dans l'opinion l'idée que Tel Aviv est une ville sympa dans un pays qui serait lui un peu merdique avec les Palestiniens, pour dire les choses telles qu'elles sont. Donc on va se servir de Tel Aviv comme cache-sexe, au sens propre du terme. Le pinkwashing, si je le définis politiquement, c'est le cache-sexe de l'occupation. Si je le définis socialement ou culturellement, je dirais que tout simplement ça consiste à repeindre le plafond en rose, et à faire passer des réalités, des supposées réalités gays, parce qu'après on pourra les discuter si on a le temps aujourd'hui, des supposées réalités gays au nom d'une stratégie qui est une stratégie commercial et marketing. Et quand je dis commercial et marketing, ça, on parle en dollars là, on parle plus en estimation et en études de marché. Ça veut dire qu'à partir de 2009-2010, le gouvernement israélien, associé à la mairie de Tel Aviv et au syndicat des hôteliers de Tel Aviv, va mettre chaque année des dizaines de millions de dollars dans des campagnes marketing, dans des campagnes de publicité, dans des actions ciblées, comme on dit, sur des clubs gays, sur des sites de rencontres, sur des discothèques, sur des semaines, etc., pour aller attirer le public gay occidental et le public gay occidental mâle. Je pourrais expliquer pourquoi ensuite, là-bas à Tel Aviv.
Tu peux dire un peu ce que t'entends par occidental ?
Ah ben, ce que j'entends par occidental, c'est simple. Ben, j'entends les gays des pays européens, des États-Unis, de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie et des grands pays d'Amérique du Sud qui sont directement visés. Et ils sont virés à travers le marketing, pour le coup. Hein. Je vais cibler les médias gays, mais je vais cibler aussi les médias sociaux, énormément, les réseaux sociaux. Je vais cibler les leaders d'influence gay à travers ces pays. Il faut savoir qu'il y a une organisation aux États-Unis qui s'appelle Witherbridge, un pont plus loin si vous voulez, et cette organisation qui compte 6 salariés, qui est basée à San Francisco, c'est-à-dire au cœur historique de la mouvance LGBTI aux États-Unis, a pour but unique d'inviter chaque année une vingtaine de leaders d'opinion, comme ils disent, LGBT, souvent de gauche, si possible de gauche d'ailleurs, ça les intéresse plus, si possible de la plus grande diversité possible, raciale, sexuelle, des filles, des garçons, des noirs, des blancs, des jaunes, des verts, etc., pour offrir, leur dire, voilà, on va vous emmener en Israël. Et on les amène en Israël, on leur montre à quel point c'est absolument formidable Tel Aviv pour les gays, et on leur dit, ben les gars, oui, alors les plus curieux, ben ils sont très contents, ils se barrent pendant une semaine à Tel Aviv, les plus curieux ou les plus obstinés ou les plus têtus disent, est-ce qu'on pourrait aller faire un tour en Palestine ? Éventuellement, on va les emmener une demi-journée, mais éventuellement seulement, et donc on va tout faire pour leur cacher la Palestine. En général, on leur cache même Jérusalem, pour dire à quel point on veut pas trop leur montrer la réalité du pays. Et encore, Jérusalem, c'est rien par rapport, évidemment, à certaines villes de colonisation en Cisjordanie, et même à certaines villes israéliennes, qui sont quand même, par ailleurs, des endroits politiquement et socialement absolument terribles.
اهدى ما هو كل شي باين في المحنة الله بيشهد مين احنا رجالة ضمن طرطش لك بنضرب حرب الليلة ما بنغلب بدك جبال وعادي من هدلك مرحب فيك في ولاد القدس من دبر حالنا نحل اللغز رنيت على نفحة وكل بخش وقت شفنا وياما وكله بصف ولا مرة نخاف ولا مرة ونص بدك بركان بنفقع بوف نعمل لك حفلة تخش تنص نستقطب مال بس بدنا نقص ما هو كله عارف ما هو كله شايف ما هو كله خايف والدنيا ترص استجدع دايما ووعك بوحش انا ادرينالين فاقع بشباب بينضرب بالغاز احنا الجدعين مش زي نجلين رد بالك عم تعيشها بلاش سوي واعمل واجمع كاش ما الدنيا صعيبه وبدها سلام سيبك من روح واحضر لك جاي انا قرش انا قرش انا قرش انا سمكه وصحابي ملان في الجلمه نشنع نعمل غلبه تجينا خالي بناخد العتبه تخوف بالليل نضوي لك عتمه بس شوف تنساش انا زي النو سلاح فتاك في بغز رجال تحفر انفاق ترجع بشوال وملان اشلاء بلاجين 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 بالجدعنه انا فاتح دكان من بيع شلسات والدم مسموح بس للسباع مكتوب على القرمه قسم لو غاد احنا جن بنطلع ما بتشوفناش ودموع ما تسيل اذا فش مسيل نحن الشجعان ان قد انا اوانه وبوم بخ وطني بيع مزينه وكيف بس عر صوت وسولاد والشيل حط كل اطراح بمكانه ان قد انا اوانه وبوم بخ وطني بيع مزينه وكيف بس عر صوت وسولاد والشيل حط كل اطراح بمكانه
حطيت من رعم الارض نطلع زي جن بخ ادي اللعب على هذا نترك على النار لافكار تنبخ اخ تراد ورا حدا اذا بلغ انا مش مركب بركبش مع حدا انا فين حطيت من رعم الارض نطلع زي جن بخ ادي اللعب على هذا نترك على النار لافكار تنبخ اخ ورا حدا اذا بلغ انا مش مركز بركبش مع حدا انا فين ان امكانيك البلد بالبقلك ديك بين رعوة غنم انا جيت انا ديك طلعت احلم نحكي حكيكة دقيقة نفهم فيش وقت بضيع شباش حفيدي بديك في بلاشة ما فيش رحميب انا يوم بحتاجك اجيك نعمل بلقان بطريقة طليق تفصيل على حدا العدل شاب جديد انا جيك ببور بالطور بالعرض وماكين عريض وفريد من نوعه كمين المخا كس اخت كل مين باع واختفى صدوا الوقت ولا عمره ارتخى يكتم سر بير نفط ورادار هلسات على طول بيعرفكوا شو دبور على طول وبيقول وا
ان قد انا اوانه وبوم بخ وطني بيع مزينه كيف بس عر صوت وسولاد والشيل حط كل اطراح بمكانه ان قد انا اوانه وبوم بخ وطني بيع مزينه كيف بس عر صوت وسولاد والشيل حط كل اطراح بمكانه ان قد انا اوانه وبوم بخ وطني بيع مزينه كيف بس عر صوت وسولاد والشيل حط كل اطراح بمكانه ان قد انا اوانه وبوم بخ وطني بيع مزينه كيف بس عر صوت وسولاد والشيل حط كل اطراح بمكانه
« je décris aussi l'aspect très sexuel du voyage à Tel Aviv, parce que dans le tourisme gay aujourd'hui, dans ce qu'est le tourisme gay, au-delà d'Israël d'ailleurs, il y a la dimension du tourisme sexuel qui était très très importante. Le tourisme sexuel autrefois, qui faisait partie de ce qu'on appelait l'orientalisme gay d'ailleurs, dans les années 70, consistait plutôt pour des gays occidentaux, là encore, friqués, socialement de classe aisée, etc., à aller dans des pays arabo-musulmans, en Égypte, au Maroc, en Tunisie notamment, et avoir des relations sexuelles avec des garçons sur place. Et donc, aujourd'hui, Israël va jouer là-dessus très fortement, c'est-à-dire va jouer sur sa double image, va jouer sur son image occidentale, si j'ose dire, y compris dans sa population, puisqu'il y a une partie de la population israélienne, vous le savez, qui est d'origine ashkénaze, donc qui vient d'Europe, blanche, alors elle s'est un peu cuite au soleil, si j'ose dire, etc. Mais globalement, et puis vous avez une partie de la population qui vient des pays arabes eux-mêmes, et qui, au fond, beaucoup de juifs dits séfarades, on dit Misraïm en Israël, ressemblent énormément à des arabes, et on peut les confondre avec des arabes, etc. Donc on va jouer cyniquement dans le marketing, dans la consommation, on va jouer sur cette double image des garçons divers, des garçons variés, qui sont, d'une certaine manière, correspondent à cette image que veut offrir Israël au monde, qui est évidemment fausse et trompeuse, à travers le pinkwashing, c'est-à-dire un pays tolérant, un pays libéral, un pays divers, un pays où il y a des gens de toutes sortes, alors qu'en réalité, c'est un pays raciste, et c'est un pays qui mène une politique coloniale de l'occupation dans les territoires palestiniens occupés. Donc, l'entourloupe est très forte, elle est très forte, et j'insiste là-dessus, elle est très sexuelle. Elle est basée avant tout sur la possibilité de la consommation sexuelle et la diversité sexuelle que peut offrir Israël aujourd'hui aux touristes occidentaux. Ce qu'il faut bien voir aussi, c'est ça où c'est une hypocrisie extraordinaire dans tout ça, c'est ne confondons jamais la réalité et le marketing. C'est-à-dire que la diversité sexuelle que vend le marketing n'est pas non plus la réalité d'Israël. C'est-à-dire que beaucoup de gens en Israël, et comme par hasard dans ce qu'on appelle en Israël ce qu'on appelait, parce qu'on l'appelle un peu moins maintenant comme ça, ce qu'on appelait la classe noire, c'est-à-dire les Misraïm, c'est-à-dire ces juifs pauvres souvent, qui venaient du Yémen, d'Irak, du Maroc, etc., et qui étaient socialement extrêmement maîtrisés, et qui mènent aujourd'hui une bataille, et d'ailleurs une bataille souvent culturelle, y compris pour retrouver ce qui était de leurs racines communes avec les Arabes, comme la pratique de la langue. La question de la musique arabe, la question du cinéma arabe, la question de l'apprentissage de l'arabe dans les écoles israéliennes est une question bien plus importante qu'on ne le croit, parce que en effaçant l'arabe de l'éducation, on efface aussi une partie de la culture des juifs eux-mêmes, qui était une culture arabo-andalouse, presque, et au sens historique du terme, hein, et qui avait en tout cas les mêmes racines. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, cette espèce d'aspect marketing n'est pas non plus la réalité. C'est-à-dire que les garçons israéliens, comme les filles d'ailleurs, mais je parle des garçons, puisque là, encore une fois, on vise les gays. Les lesbiennes ne sont absolument pas visées par le tourisme gay, parce qu'elles sont beaucoup plus méfiantes, et tant mieux, et beaucoup moins moutonnières que les gays, et tant mieux également. Mais les gays, on va leur faire croire que tous les... Mais c'est vrai, c'est ce que je pense, c'est la réalité. Et puis la réalité, c'est le marketing, là, pour le coup. Et donc le marketing a compris très bien ça, que c'était beaucoup plus facile de vendre un modèle de consommation sexuelle à des hommes qu'à des femmes aujourd'hui. Et donc, ben, on leur vend des trucs, mais des trucs qui n'existent pas réellement non plus. Et donc, on va les accompagner. Et pour moi, c'était... Alors, il y a une partie de naïveté, peut-être, dans ce que je vais dire là, mais c'est vrai que cette espèce de manière de vendre des mirages, au sens propre du terme, c'est pour ça que j'ai appelé mon livre Mirage Gay à Tel Aviv. C'est-à-dire que, évidemment, c'était la référence à l'Orient, un Orient un peu fantasmé, etc. La lampe d'Aladin, tout ça, mais en même temps c'est un vrai mirage, c'est-à-dire que Tel Aviv n'est pas non plus une espèce de ville où tous les garçons ne pensent qu'à une chose, c'est accoucher avec le premier polonais, danois, nord-américain, argentin, venu. C'est des gens qui vivent, qui partagent, qui ont des vies, des amours, des passions, des réalités, qui sont sensibles souvent à une réalité sociale très importante, à tel point d'ailleurs que j'ai rencontré plus d'opposants, plus de gens contre, filles comme garçons, lesbiennes, gays, comme hétéro, comme bi, comme tout ce que vous voulez, opposant au pinkwashing à Tel Aviv que nulle part ailleurs dans le monde. C'est-à-dire que les gens aussi à Tel Aviv, les militants radicaux à Tel Aviv, les militantes radicales de Tel Aviv ont littéralement honte de ce que le gouvernement fait en leur nom, ont littéralement honte de ce pinkwashing qui n'est encore une fois qu'une stratégie de cachex de l'occupation, et que ça se fasse en leur nom, parce que ils sont israéliens, ça les dégoûte et ça les révolte très profondément. Et donc, on est dans une situation très paradoxale aujourd'hui, où le pinkwashing attire de plus en plus, chaque année un peu plus, hein. Je l'ai constaté de visu moi-même ces dernières années. Chaque année, vous avez un peu plus de touristes occidentaux qui se précipitent à Tel Aviv, la première de semaine de juin. Il y a 4 ans, c'était 25 000, puis ça a été 27 000, puis 30 000, puis 35 000, puis 40 000, etc. Vous avez de plus en plus. Et en même temps, à l'intérieur même d'Israël, Israéliens comme Palestiniens, et j'insiste là-dessus, se mobilisent de plus en plus et essayent de plus en plus de contrer ce que j'appelle le rouleau compresseur du marketing.
Cette affaire, elle semble aussi d'autant plus paradoxale que dans les vieux clichés antisémites européens, les juifs étaient aussi efféminés et orientalisés.
Bien sûr.
Donc, ça se rejoint aussi quelque part.
Ah oui, et là, c'est très intéressant parce que l'origine du sionisme est un combat aussi pour changer ce que les dirigeants sionistes de l'époque, c'est-à-dire de la fin du 19e siècle, considèrent comme les tares des juifs. Et ils considèrent qu'une des tares des juifs, une des plus importantes pour les juifs d'Europe, et on reviendra après à la tare pour les juifs du Maghreb, habitant le Maghreb et le Moyen-Orient au sens large, les juifs d'Europe, ils considèrent que les dirigeants sionistes considèrent qu'ils passent beaucoup de temps à prier, ils passent trop de temps à prier, et que la prière est une activité efféminée, qui va rendre les hommes féminins. Tu pries, tu chantes, tu te prosternes, tu trucs, c'est des activités de femmes, de femmelettes. J'emploie ce mot à dessein, ce mot un peu méprisant, parce que c'est les mots qu'il employait. Et donc, ce qui va se construire très paradoxalement, un discours des dirigeants sionistes qui va être assez proche, d'une certaine manière, de celui des antisémites qui caractérisent des espèces de biologistes, qualifient les juifs de personnes faibles, de manque de courage, de personnes peu musclées. Évidemment, les juifs n'ont pas le droit de travailler la terre, n'ont pas le droit d'exercer un certain nombre de métiers, et donc, ils exercent des métiers qui ne sont pas forcément des métiers physiques. Et donc, cette espèce d'image du juif occidental supposé efféminé, supposé soumis, supposé non combatif et tout, les dirigeants sionistes vont l'utiliser pour construire leur projet. Et là, ils vont rencontrer leur propre vision des juifs dans le monde arabo-musulman, parce que pendant que leurs confrères d'Europe orientale et centrale ne pensent qu'à prier, en gros, aux yeux des dirigeants sionistes, ceux du monde arabo-musulman ne pensent qu'à chanter et à danser avec leurs amis et voisins arabes.
Mais par exemple, ça, justement, ça alimente pas un peu ces images un peu d'un imaginaire un peu pornographique
non, pas
et sexuel. Non, pas à l'époque, mais après, en fait, en répercussion, tu vois, après un moment, tu vois, comme là, dans ce passage-là du bouquin, quand on est dans les années 50-60, oui. Où il y a tout cet imaginaire un peu, justement, d'orientalisation par rapport à...
Oui.
Tu vois ce côté-là aussi un peu.
Alors, plus tard, c'est-à-dire que... Pourquoi ? Parce que ça va se passer en deux temps, si tu veux. Il y a cette idée que le corps juif est un corps qu'il faut changer, qu'il faut modifier, et ça va être un projet d'abord idéologique, c'est-à-dire le projet du foyer national juif, dire voilà, il faut changer les juifs, il faut changer ce qu'est le corps des juifs, il faut muscler le juif, il faut le viriliser au sens propre du terme, et du coup tu as raison, c'est-à-dire que dans un deuxième temps ça va permettre de nourrir un certain orientalisme, parce qu'Israël va très vite se rendre compte que l'orientalisme gay tel qu'il se pratiquait au 19e siècle, il est en train d'entrer dans une impasse, et il va entrer dans une impasse qui va s'accélérer dans les années 80, les années 90 et les années 2000, avec la montée dans les pays occidentaux, pour des raisons dont nous n'allons pas revenir, d'ailleurs, évidemment, de l'islamophobie. Et moi, je dirais plutôt, parce que le terme est plus juste, en l'occurrence, de l'arabophobie, c'est-à-dire qu'on va développer consciemment, la peur de l'arabe chez les gays occidentaux. Et donc, ce que je décrivais dans les pages que tu lisais il y a quelques secondes, c'est-à-dire ce fantasme du beurre, ce fantasme de l'arabe, ce fantasme fantasme de la possession, d'ailleurs réciproque, du corps de l'arabe, du partage sexuel avec le garçon arabe. Je dis le garçon à dessein, puisque c'est vraiment comme ça qu'on concevait le rapport avec les Arabes, comme des rapports entre des hommes et des garçons. Et ben tout ça va petit à petit entrer dans l'imaginaire et dans la fabrication du marketing israélien autour du pinkwashing. Et donc, on va te vendre des garçons, des sabras, et on va te vendre, si j'ose dire, des folles arabes. C'est-à-dire, voilà, les deux faces de ce que l'Orient peut offrir au mâle occidental friqué en quête de consommation sexuelle. C'est intéressant aussi la question de l'homophobie, parce que la question de l'homophobie est un des grands arguments utilisés par le gouvernement israélien pour dénoncer ses voisins arabes et dire à quel point Israël est bien par rapport à ses voisins arabes. Et donc, l'homophobie du gouvernement... L'homophobie utilisée par les autorités israéliennes est une réalité qui est très importante en Israël, parce qu'elle est évidemment quantifiée et quantifiable. Aujourd'hui, les dernières études sociologiques donnent un taux d'homophobie en Israël de 47% de la population, et on monte à 70% chez la partie la plus religieuse de la population, c'est-à-dire les orthodoxes et les ultra-orthodoxes, qui représentent à peu près 30% de la population israélienne. Donc on a une phobie qui est profondément ancré et qui est profondément ancré dans la famille. Parce qu'il faut le savoir, on est dans un cadre où la famille est le nœud central de toute vie sociale en Israël. Le cercle familial, la possibilité d'être dans le cercle familial, la possibilité de rester dans le cercle familial, tient à une chose extrêmement importante, c'est la production d'enfants. C'est-à-dire, si vous faites des enfants, vous êtes dans la nation, vous offrez des fils et des filles, et je mets des capitales à fils et filles en Israël, qui seront des soldats pour défendre la patrie. C'est comme ça que c'est dit et pensé. Et donc, le fait de ne pas avoir d'enfants quand on est une lesbienne ou quand on est un gay, d'une certaine manière, va contribuer à vous exclure de la société nationale. Et donc, j'ai fait un double phénomène, c'est-à-dire, je vends l'Israélien comme attraction sexuelle à l'extérieur, et à l'intérieur, je propose aux lesbiennes et aux homosexuels mâles israéliens d'entrer dans la norme et de faire des enfants. Et donc, je vais tout faire pour la natalité, pour faciliter toutes les techniques nouvelles de reproduction. Par exemple, la FIV, Israël a été le premier pays au monde à autoriser la FIV pour toutes les femmes, et aujourd'hui c'est 3,7% des naissances dans ce pays, dont la plupart des femmes lesbiennes. La GPA est autorisée pour les couples hétérosexuels en Israël, et c'est le seul pays au monde pour l'instant où il y a un projet de loi pour autoriser la GPA pour les couples homosexuels. Et donc vous voyez, on va s'ouvrir à toutes les formes modernes pour dire aux gays, ben, à partir du moment, et aux lesbiennes, à partir du moment où vous faites des enfants, vous allez pouvoir vous intégrer dans la communauté nationale. Israël a depuis longtemps, d'ailleurs, ça fait partie de la stratégie politico-diplomatique d'Israël, Israël se vend depuis longtemps comme un modèle. Hein, un modèle, et en gros, Israël dit même régulièrement dans les sommets internationaux, M. Benjamin Netanyahou, donc le Premier ministre, dit régulièrement, regardez ce qui se passe chez nous, et regardez ce que vous devez faire si vous voulez éviter ce qui risque de se passer chez nous. Donc cette espèce, encore une fois, de grande menace. Alors, là, moi j'ai regardé les choses, parce qu'il se trouve que le phénomène n'est absolument pas propre à la France, il est absolument général. C'est-à-dire que on voit aujourd'hui des partis d'extrême droite, ouvertement d'extrême droite, aux Pays-Bas, en Autriche, en Allemagne, en Belgique, en France, en Grande-Bretagne, etc. Ces partis ouvertement d'extrême droite prendre la défense d'Israël contre les Arabes, et prendre la défense des homosexuels, des femmes, contre les Arabes. On a entendu Marine Le Pen, pendant sa campagne présidentielle, dire exactement ce que vient de faire cette femme que tu cites de Debout la France, ici sur Lyon, dire ben, il fait pas bon être une femme, un homosexuel ou un blanc, un français, dans les cités, dans certaines cités de notre territoire, dans certains quartiers de notre territoire. Ça veut tout dire, ça. Hein. C'est-à-dire qu'une fois que tu as dit ça, la messe est dite, si j'ose dire. Et comme la mondialisation, ben oui, mais comme la mondialisation se fait croire qu'aujourd'hui on est dans un espèce de combat absolument mondial de l'Occident blanc et certains ajoutent chrétiens mezzo-vossés contre les Arabes et l'islam au sens large, sans d'ailleurs exactement savoir à quoi correspondent ces notions, c'est-à-dire aussi bien que l'Occident chrétien que l'islam arabe, et confondant évidemment beaucoup de choses, l'islam n'étant pas spécifiquement arabe par ailleurs, loin s'en faut évidemment. Donc voilà, on est dans une espèce de situation où face à cette espèce de grand choix, entre guillemets, de grands blocs et tout, ben les PD occidentaux, les gays, ils ont vite fait de choisir leur camp, et leur camp, c'est d'abord, je dirais, celui de l'argent, en fait.
Et de la normalisation, comme
et de la normalisation, mais la normalisation, ça passe par l'argent, c'est-à-dire que ça passe par le modèle social, ça passe par le fait que, ben toi, étant gay de classe moyenne, ayant des intérêts donc de classe moyenne, qu'est-ce que c'est que les intérêts de classe moyenne? C'est principalement, évidemment, par rapport à la classe ouvrière, aux classes populaires, c'est des intérêts de patrimoine, hein. Et donc, ce qui va t'intéresser, c'est ton patrimoine. C'est comment sauvegarder ton patrimoine, le préserver, le transmettre, le consolider, etc. Et donc, toutes les formes, aujourd'hui, des gays dominants, ben, c'est lié à deux choses. D'une part, la constitution et la consolidation du patrimoine, ça passe évidemment par le mariage, mais pas seulement par le mariage, c'est une forme comme une autre. Ça passe évidemment aussi, par un cynisme social absolu à l'égard des gens qui autrefois auraient pu être éventuellement des camarades de lutte. C'est-à-dire que le PD occidental, et pardon de dire les choses aussi simplement, n'en a absolument rien à foutre aujourd'hui des pauvres, et donc comme il n'a rien à foutre des pauvres, il a encore moins rien à foutre des Palestiniens qui sont aujourd'hui, si on peut dire, les damnés de la terre. Il n'y a pas pire aujourd'hui, à mon avis, malheureusement pour eux, mais d'être Palestinien aujourd'hui et de subir, parce que cette espèce d'oppression permanente qui est liée à la colonisation, c'est quelque chose que vous subissez tous les jours, la colonisation, hein, c'est pas un concept, la colonisation, c'est une réalité quotidienne que vous vivez quand vous habitez dans les territoires occupés, et que vous vivez quand vous habitez dans les territoires occupés, que vous soyez gay, lesbienne, hétéro, marié, célibataire, trans, pas trans, etc. C'est la réalité quotidienne de tous les Palestiniens, et c'est pour ça que, si vous voulez, cet homo-nationalisme qui va dire, en fond, ben, Israël, aujourd'hui, nous protège de ce que pourraient éventuellement nous faire les Arabes. Et donc, il a intégré complètement le discours israélien qui a transformé la réalité de sa pratique, parce que la réalité de la pratique du gouvernement israélien, c'est d'être un gouvernement colonial, hein, c'est-à-dire en place avancée de l'Occident dans un monde arabe qui serait menaçant pour nos valeurs. Et là-dessus, les PD se disent bingo, parce que nos valeurs, c'est aussi notre patrimoine, c'est-à-dire que entre les valeurs morales dont on nous bassine les oreilles à longueur d'année et les valeurs financières qui constituent le portefeuille de ces gens, eh ben finalement, au fond, il n'y a pas de différence, c'est les valeurs de l'Occident, qu'elles soient morales ou financières, et le reste, la pauvreté, la misère, la guerre, l'injustice, la Palestine, j'en ai absolument rien à foutre, et donc je vais défendre et voter pour des partis qui vont défendre mes intérêts. Et aujourd'hui, les partis qui défendent les intérêts des nationalismes en général, eh ben, c'est les partis d'extrême droite, ces nationalistes, qu'ils soient homo ou hétéro, ont les mêmes moteurs et les mêmes logiques, c'est-à-dire des logiques d'exclusion des plus pauvres et, en ce qui nous concerne, des Palestiniens et des Palestiniennes.
On vient d'écouter Jean Stern. C'était une interview, un montage qu'on a fait d'une émission qui a été faite en 2018 par On n'est pas des cadeaux et le CRAP. Et qu'est-ce que je voulais rajouter? À un moment donné, il parle de la GPA. Et en fait, la GPA, elle a été ouverte depuis le mardi 11 janvier 2023 en Israël aux couples d'hommes, aux hommes célibataires et aux personnes trans. Donc ça y est, c'est, la loi est passée. Voilà, vous pouvez écouter l'intégralité de cette interview sur le blog de On n'est pas des cadeaux, qui est toujours actif, on vous mettra le lien. Et on a écouté Dabour et Shabjid Inan, c'est des rappeurs palestiniens du collectif, je sais pas comment on dit, c'est que des lettres, BLTNM. Et c'est un label indépendant de rap palestinien. Et là, on va écouter Shadia Mansour et Dead Prez.
نضيفكم دم عربي ولا دموع من عيوننا بعتقد هيك تأملوا نستقبل من هيك تعقدوا لما تدركموا على غلطتن من هيك لبسنا الكوفي البيضة والسودة صاروا كلاب الزمان يلبسوها كموضة مهما تفننوا فيها مهما غيروا بلونها كوفية عربية بتضل عربية حطتنا بدنا إياه ثقافتنا بدنا إياه كرامتنا بدنا إياه كل شي إلنا بدنا إياه ما رح نسكت لن نسمح لن ليك ليك لا بقلن يسرقوا شغلة مش إلهن ما حصن فيه هلدونا بلتبس لبس هالأرض بتكفيهنش طمعانين عالقدس قدس اعرفوا كيف كونوا بشر قبل ما بتلبسوا كوفية جينا نذكرن مين إحنا وغصب عن أبوهم هي حطتنا من هيك لبسنا الكوفية لأننا وطنية الكوفية كوفية عربية من هيك لبسنا الكوفية هويتنا الأساسية الكوفية كوفية عربية يلا علي الكوفية علولي هالكوفية الكوفية كوفية عربية علوه هلا بلاد الشام كوفية عربية بتضل عربية ما في بعد مثل الشعب العربي فرجوني أي أمي بالدنيا أكتر مؤثرة الصورة واضحة نحنا مهد الحضارة تاريخنا وتراثنا الشاهد على وجودنا من هيك لبست الثوب الفلسطيني من حفا جنين جبل النار إلى رام الله خليني شوف الكوفية البيضة والحمرة خلينا نعليها لفوق بالسما أنا هجاه دية العرب الثاني بخص غزب الثاني بهز هزكلي ماتي حرب سجل أنا شادي منصور والحطة هويتي من يوم ما خلقت سيدي والشعب مسؤوليتي لك أنا تربيت بين الغرب وبين الشرق بين لغتين بين بخيل بين فقير شفت الحياة من الشقتين سنة مثل الكوفية كيف ما لبستوني وين ما شلحتوني بدلني عأصولي فلسطينية من هيك لبسنا الكوفية لأنها وطنية الكوفية كوفية عربية من هيك لبسنا الكوفية هويتنا الأساسية الكوفية كوفية عربية يلا علي الكوفية علولي هالكوفية الكوفية كوفية عربية علوه هلا بلاد الشام كوفية عربية
ain't no scarf, it's a part of the movement. The symbolism is resistance, no coincidence that you can see the RBG in it. Cable neath the bandana, ain't it beautiful? I say it in Spanish, it's solidarity, the feelings is mutual. Meanwhile, hi, that's M1 in Arabic. I'm pro-Falastini, does that make me a terrorist? You can catch me in Gaza, in Haifa or Ramallah, but I'm still just Mutulu Olubala. So when I rep with Shaja, we rhyme with our middle fingers up to the Zionists, cause we don't give a fuck, it's justice. So tie that thing around your head and ride, wave it in the air and let me know.
Vous êtes toujours sur Interlope, sur Radio Canu. Et du coup, on continue en parlant d'une radio par et pour les femmes en Afghanistan qui existe depuis 2 ans maintenant. Et en cherchant des informations sur le mouvement Femmes, Vie, Liberté en Iran et plus globalement sur la détérioration des droits des femmes, je suis tombée sur cet article qui parle de Radio Begum, qui signifie Radio des Reines en persan, et qui est basé à Kaboul, en Afghanistan. La fondatrice, Amida Aman, anime une autre émission de radio depuis 10 ans, alors elle connaît un peu les ficelles des ondes, et réussit grâce à sa persévérance et sa niaque à conserver sa fréquence malgré les restrictions des talibans. Du coup, il y a une trentaine de femmes journalistes et animatrices qui se relaient pour faire exister ce précieux média, et leur but est d'apporter du soutien aux auditrices. Elle propose par exemple 6 heures par jour de séances d'éducation, soutien scolaire pour les plus jeunes. L'éducation est autorisée jusqu'à l'âge de 12 ans pour les femmes, mais aussi des cours divers pour toutes les femmes, anglais, littérature, poésie, culture générale, histoire, un peu tout sauf les maths et les sciences parce que c'est trop difficile à enseigner sans support visuel. Elle propose aussi aux auditrices de participer en organisant des concours de poésie, un programme de méditation, des moments de lecture dans le but d'améliorer le quotidien des femmes et les convier quand tout leur est retiré, interdit. Elle propose du soutien médical, social, psychologique, que ce soit en parlant de ces sujets à l'antenne, en prenant soin d'éviter les tabous talibans, par exemple. Plutôt que de parler de contraception, elles vont choisir de parler d'espacement de naissance, s'auto-censurent et trouvent un nouveau vocabulaire pour pouvoir continuer d'exister tout en apportant des réponses aux auditrices. Tous les jours, de nombreuses femmes appellent pour témoigner de leur quotidien et cherchent un soutien. Du coup, je cite un extrait de l'article qui raconte la création de la radio. Radio Begoum est née durant les pourparlers à Doha au Qatar, entre les Américains et les talibans en 2020, pendant que le monde se confinait face au coronavirus. On sentait que le vent allait tourner, que les femmes en particulier allaient être impactées dans leur vie et dans leurs droits, mais on était loin d'imaginer ce désastre, que les talibans reprendraient tout le pouvoir, que le régime s'écroulerait. On s'est dit que le meilleur moyen pour faire entendre la voix des femmes, c'était la radio. C'est comme une lumière dans la nuit. Et voilà, ça m'a touchée et j'ai kiffé cette histoire de radio libre. Et j'avais envie de le partager dans l'émission. Voilà.
Yes. Bah ouais, de toute façon, la radio, c'est toujours un super support pour plein de gens, à plein d'époques, dans plein de lieux différents. Et même encore aujourd'hui, même qu'on n'ait plus des radios pirates ici en France, on existe toujours et on a de l'importance. No, c'est pas ça normalement. Parce que je me suis trompée dans l'intitulé. Je crois que c'est ça, c'est que le truc qui s'appelle One Tree Hill. Oh non, bah si on n'a pas ça, on n'a rien. Regarde dans le dossier juste à côté. Si ça perd tout intérêt. Parce qu'en gros, je suis censée vous faire un potin lesbien, mais qui est nul, que j'hésitais à vous faire, parce qu'il est vraiment nul et inintéressant. Vous voyez, quand on parle des potins de stars, mais en fait de gens qui ne sont pas vraiment des stars, qui sont genre des gagnants de télé-réalité, des trucs comme ça. Là, ça n'est quand même pas à ce point-là, mais... Est-ce que tu trouves ou est-ce que je viens ? Yes, voilà, c'était ça. Et voilà, est-ce que vous reconnaissez ce son? Cette musique, ça vous rappelle quelque chose? C'est le générique d'une série. Une série que les plus de 30 ans connaissent, mais peut-être pas ceux en dessous. C'est le générique de la série Les Frères Scott, ou One Tree Hill en anglais. C'est une série qui a été diffusée en France à partir de 2004, donc voilà, c'est vieux. C'est une série d'ados blancs qui vont au lycée et il y a deux frères ennemis qui se battent au basket et qui se battent pour plein de raisons. Et ils se battent aussi pour des meufs. Et il y a deux teams, il y a la team Peyton qui est la meuf rebelle qui écoute du rock, qui est une artiste torturée. Et il y a la team Brooke qui est une peste superficielle. C'est un peu la populaire et capitaine des pom-pom girls. Et cette Brooke, elle est interprétée par Sophia Bush. Donc c'est Sophia Bush qui va nous intéresser. Elle n'est pas descendante de George Bush. Et voilà, vous vous souvenez de cette Brooke? Cette Brooke, ouais. Donc Sophia Bush, elle était tout à fait hétéra jusqu'à ce dernier août dernier, qu'elle a commencé une story avec une footballeuse américaine qui s'appelle Ashlyn Harris et qui est, elle, ouvertement lesbienne et qui était même mariée avec des enfants et tout ça, avec une meuf. Voilà, vous êtes choqués d'apprendre tout ça. Voilà, le potin pourri. Peut-être au lieu de potin lesbien, ça pourrait être potin pourri. Du coup, en cherchant plus d'infos, parce que je me suis dit quand même, il faudrait qu'il y ait un peu de croustillant dans tout ça. Bon, il n'y a pas plus de croustillant, mais quand même, je me suis rendu compte que... En fouinant, il y avait plein de gens qui faisaient des vidéos sur les potins de stars, mais genre des gens lambda qui prennent leur micro et qui passent des fois une heure à parler de tel couple et de tel autre couple et à décrypter la vie amoureuse des stars. Je trouve ça incroyable. Bon, bien sûr, tout ça, ça se passe aux States. Hein. Il n'y en avait pas en français, mais voilà. Voilà.
Mais il y en a un quand même en français.
Bah là, moi, j'ai trouvé que
des youtubeuses, des youtubeurs qui vont parler de la relation entre Rihanna et ASAP Rocky.
Ah ouais,
ouais, grave. Écoute.
Mais là, ça faisait vraiment cheap parce que j'ai l'impression que justement, ils parlaient de stars qui n'en étaient pas.
Ah ouais.
Ça faisait vraiment. Ah ouais. Alors, on met le générique de fin maintenant. It's the way that we live. Oh yeah. Eh ben, si vous avez des potins lesbiens, vous pouvez nous les envoyer à interlope@cryptolab.net. Cryptolab, ça s'écrit CryptoLab.net. Envoyez-nous tous vos potins lesbiens de stars, bien sûr, sinon ça ne nous intéresse pas. Et on fait un petit agenda ?
Oui, je vous propose que... Tu m'entends pas ?
Nous, on t'entend.
Ok. Bah oui, on fait l'agenda et puis peut-être on termine en lançant la dernière petite capsule de Valence.
Ouais. Et ben, comme vous le savez sûrement, c'est le week-end du FACT, le Festival des Arts Trans, et aussi du Halloween Fest. C'est la suite du Mega Gwyn Fest, mais pour Halloween. Et il y aura plein de trucs ce week-end. C'était sur inscription, le Halloween Fest. Alors, je ne sais pas s'il reste des places, mais bon, vous pouvez toujours les chercher sur Instagram. Leur compte, c'est Lesbiennes contre le Patriarcat. Et sinon, le FACT, F-A-C-T, vous pouvez aussi les trouver sur Internet et sur les réseaux sociaux. Et notamment, il y a ce soir une soirée au Sonic qui a l'air super. Et demain, il y a une soirée à Grande Zéro qui a l'air super aussi. Et qui dure jusqu'à 5h du matin. En plus, on va changer d'heure, donc la nuit va être encore plus longue. Et il y aura des DJ, des performances, voilà. Et le dimanche, il y a une conférence, parce que... Ah bah zut, j'ai plus la date exacte. C'est quand la date exacte de la journée l'intersection.
J'arrive.
Ouais, voilà, on est sur le coup. En tout cas, dimanche, il y a une conférence... c'est la représentation dans la fiction des personnes intersexes. Voilà. C'est à 15h. Mais je ne sais pas où. Putain, on va aller pas poser ça comme question.
Collectif intersexe activiste, quinzaine de la visibilité intersexe. Les représentations des personnes intersexes dans la fiction le dimanche 29 octobre à 15h, entrée à prix libre au théâtre de l'Élysée.
Ok. Yes. Et c'est quand la journée spéciale ? C'est ça que je. On note pas, faut qu'on fasse un agenda de toutes les journées spéciales.
Mmh. Bon. Ça, je sais pas.
C'est en novembre.
Et mais t'as pas quelque chose à dire par rapport à Interlope et au Halloween ?
Ah merde ! À la nulle ! Non mais le clou du spectacle, vous savez ce que c'est que Interlope sera au Mega Gwyn, au Halloween Fest à l'île Égalité et qu'on va faire un micro-trottoir, on vous a préparé plein de questions sexy, potin, politico, machin truc, drôle et on vous demandera d'y répondre et voilà, et ça peut être marrant, voire intéressant, voire super et du coup on sera là de 20h à 22h30 à l'île Égalité avec notre micro.
Oui, vous pouvez même caresser la bonnette du micro si vous êtes stressé ou si vous êtes timide. Le micro ne mord pas, il est même très doux.
On vous attend.
Et on se quitte avec une petite capsule sur une radio à Valence.
Zonzonde, une émission pour les prisonniers de Valence et leurs proches. It's a new day. Fuck
what a bitch gotta say. Tous les deuxièmes mercredis du mois de 20h à 21h
sur Radio Méga à Valence 99.2
et sur le site internet de Radio Méga.
Pour faire du lien entre l'intérieur et l'extérieur.
Pour faire une dédicace musicale et des messages à des proches enfermés.
Pour que des paroles de prisonniers prisonnières puissent retentir dehors.
pour que malgré l'isolement, des personnes ressentent notre soutien.
Alors si tu veux passer un message à un proche, faire une dédicace musicale en direct, tu peux appeler au 09 72 40 20 85.
Ou écris-nous à Zonzonde Radio Méga 35 rue Prompso.
Prompso, P-R-O-M-P-S-A-U-L-T.
26 000 Valence. Pour laisser un message, un vocal, un lien musical ou un son avant l'émission, c'est sur le
07 44 17 84 13.
De dédicace en dédicace, on casse l'isolement.